Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Louis.
« 9h30, il y avait trop de monde sur la ligne de métro. Les clients et leurs mails qui commencent par « sauf erreur de ma part ». Si, si, erreur de ta part. Les N+2 qui mettent la pression, la pause déj qu'on n'a pas eu le temps de prendre, la réunion de 18h qui déborde sur le planning. » En partageant 7 à 8 heures par jour dans des environnements décloisonnés, nos journées deviennent des parodies du tube « Ça m'énerve » d'Helmut Fritz que l'on scandait en soirée dans les années 2000. C'est simple. Certains experts avancent que nous râlons en moyenne entre 15 et 30 fois par jour. Faites l'exercice autour de vous. Vous devriez pouvoir assez facilement pointer le râleur du bureau, le Jean-Pierre Bacri de l'Open Space. À moins que ce ne soit vous.
Tu sais, quand t'arrives à la machine à café le matin et que tu mets une capsule dans le truc et que la machine, elle est pleine et que tu dis, putain, encore, c'est pas possible. Enfin, tu vois, genre, il y a que moi qui fais ça. Ben, en fait, c'est aussi anodin que ça. Ça peut commencer sur ce genre de truc. Et après, c'est râler parce que l'ordinateur plante, c'est râler parce que un tel répond n'importe quoi à un mail. C'est, voilà, en fait, c'est toutes les petites contrariétés de la journée. Elles ne sont jamais surmontées de manière... elles sont jamais intériorisées. C'est jamais gardé et process dans son petit coin. C'est toujours une opportunité de la ramener, tout simplement. Donc, c'est vrai que je suis cataloguée quand même la grande gueule, la nana qui la ramène et qui est pas contente, qui est négative, qui râle.
Audrey a travaillé pendant 5 ans dans une agence média. Malgré le plaisir qu'elle peut prendre au quotidien dans son travail, sa façon de voir toujours les choses de manière négative et de ne pas se gêner pour le dire est rapidement identifiée par ses collègues et ses supérieurs.
Ça a été exprimé par mes boss, hein, tout simplement, pendant la revue annuelle, là, l'entretien annuel. Donc ça, on m'a dit, au niveau du boulot et de ce qui était les livrables, etc., c'était très bien, mais que l'attitude, parfois, c'était un problème, parce que ça pourrit l'ambiance un peu, je pense, pour les autres. Et ça met un climat pas fun sur les projets. Donc oui, ça a été dit. Et après, bon, les collègues, on se taille. Donc, je sais que, voilà, chacun a son truc. Et moi, clairement, je suis la râleuse, la rageuse, quoi.
A-t-on raison de se plaindre au travail? Est-ce que ça ne nous empoisonne pas? Faudrait-il, comme l'invite à faire de nombreux ouvrages de développement personnel et des conférences TED, tout simplement essayer d'arrêter de râler au travail? Je suis Raphaël Elkrief. Bienvenue dans Émotions au travail. Historiquement, ce que nous pouvons ou ne pouvons pas faire sur le lieu du travail est le fruit d'une longue acquisition, d'un effet de balancier entre acquisition et dépossession des salariés. On ramène plus de travail chez soi en 2024 qu'au siècle dernier, avec nos 3 téléphones et nos systèmes de messagerie instantanée, mais on tend à être de plus en plus protégé par les acquis sociaux aussi. En France, il existe un droit d'expression des salariés, qui leur garantit de pouvoir s'exprimer directement et collectivement sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation du travail. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'article 2281 du Code du travail, dans le cadre des lois Auroux de 1984. Un tournant qui a permis aux salariés de dire, notamment au travers de groupes d'expression, ce qu'il y avait à améliorer au sein de leur entreprise. 40 ans plus tard, le sujet continue d'être porté par des députés. Parmi ce que le salarié peut exprimer ou non, il y a aussi ces râleries quotidiennes, qui sont aussi garanties par le droit du travail américain. Le Fair Work Act prévoit qu'il est illégal pour un employeur de renvoyer un salarié qui se serait plaint. Alors râler, on peut le voir quelque part comme un acquis social. Mais est-ce qu'au quotidien, ça nous fait vraiment du bien ?
C'est vrai que c'est poison. Et ce qui m'a été renvoyé aussi en thérapie, c'était « mais si vous étiez confronté à un collègue de travail comme vous ?» Et effectivement, c'est là que tu te dis « c'est pas possible ».
Nos râles peuvent être pénibles pour les autres. Et ça semble assez logique qu'ils puissent s'en plaindre à leur tour.
C'est vrai que du coup, le retour de la revue annuelle dont je te parlais tout à l'heure, le fait que ce soit dit, et j'ai senti chez les boss aussi une manière de l'emmener, où genre on mettait un peu les gants, etc. Je me suis dit, c'est le monde à l'envers, ça va pas. Et puis je me rendais compte que ça me rongeait moi aussi au quotidien, parce qu'on te renvoie un truc quand même majoritairement négatif de « allez, c'est bon, on la ramène encore celle-là », alors que t'es quand même productif et t'es quand même bon dans ton boulot. Donc je me suis dit, voilà, en fait, je m'empoisonne l'esprit plus qu'autre chose, en plus de d'empoisonner les autres. Donc effectivement, j'ai décidé d'aller régler ça et je me suis rendu compte que c'est le symptôme de plein d'autres trucs qui vont pas.
Pour trouver un remède à ces râleries quotidiennes et en finir avec cette pollution de négativité auquel nous sommes tous confrontés, évidemment, le développement personnel a ses solutions. Installée à Los Angeles, la Française Christine Levicky a forgé autour de son best-seller « J'arrête de râler » écoulé à 2 millions d'exemplaires en 5 ans, un véritable business. Conférences TED, podcasts, ateliers... La conférencière et coach propose un marathon d'abstinence pour arrêter de bougonner en se basant sur cette tendance qui part du principe qu'il faudrait 21 jours au cerveau humain pour créer de nouveaux rituels et se délester, si on le veut vraiment, de ces habitudes qui nous encombrent. Pour ce qui est de râler au travail, la méthode est simple. On met un bracelet élastique à son poignet et on se lance dans un effort très conscient pour ne pas maugréer ni bougonner dans son coin. À chaque fois que vous échouez, vous changez le bracelet de poignet et vous remettez les compteurs à zéro. Ça, c'est le début du processus. Suivi par tout un tas de techniques issues de la psychologie positive, de la méditation et d'autres exercices de respiration. Outre la méthode des 21 jours popularisée par Levicky, Internet regorge de listes, plus ou moins pertinentes, de solutions pour réussir à exprimer sa gratitude. Une manière très américaine de voir le quotidien qui vient se heurter au mythe culturel français consistant à râler sur tout. Des Gaulois, de Goscinny et Uderzo, aux personnages imaginés par le dessinateur Georges Wolinski dans les années 70, pestant sur tout, de la politique en passant par le temps qu'il fait, il se pourrait que nous râlions aussi parce que c'est un marqueur culturel auquel le monde du travail n'aura pas échappé.
Moi, je suis partie à l'étranger pendant longtemps. J'ai bossé, j'ai démarré ma carrière aux États-Unis et on n'a pas du tout la même manière de travailler, de s'organiser, de voilà. Aux États-Unis, on fait pas du tout les choses de la même manière. Je dis pas que c'est mieux ou moins bien. Je dis simplement que voilà, du fait que effectivement il y a le poids aussi à un moment donné des lawsuits, c'est quand même très bordé leur truc, hein. Donc ils ont tendance à exagérer un contexte de travail hyper sain, hyper sympa, etc. Parce que ben tout est prétexte sinon à ce que ça prenne des proportions pas possibles. Donc j'ai, si tu veux, mis le pied à l'étrier dans ma carrière dans ces conditions-là. Donc revenir en France, et je le voyais en plus, hein, tu le vois de l'étranger, tu vois la manière dont les gens réagissent et tu te dis, ben, ils voient tout à travers le prisme de la négativité, c'est pas possible quand même. Et en fait, je suis devenue cette personne en rentrant.
Râler en entreprise, c'est un peu un sport national. Et si l'on cherche pour une fois à regarder le verre à moitié plein, on réalise que c'est aussi un puissant vecteur de lien social. Des études le montrent. Jennifer Bosson, une chercheuse en psychologie sociale de l'Université de Floride du Sud, démontrait à quel point l'alchimie opérait entre les individus dans la négativité. Lorsque deux étrangers se rencontrent, ils développent plus d'intimité entre eux s'ils partagent des opinions négatives sur un objet tiers. Râler, exprimer son mécontentement, partager des opinions négatives sur un supérieur, un client, des conditions de travail, c'est aussi une manière de créer du lien autour d'un ennemi commun, même si c'est juste un logiciel qui plante.
Je râle sur plein de sujets variés, beaucoup sur les gens, la qualité de leur travail, la qualité de leur investissement. Voilà, ça c'est globalement le premier motif de râlage.
Julia a 36 ans. Elle est aussi souriante et sympathique que râleuse et revendicatrice. Un tempérament qu'elle emporte forcément avec elle au travail.
Je râle sur des choses aussi basiques comme mon ordinateur qui ne fonctionne pas. C'est vraiment au cœur de mes plaintes quotidiennes. Donc le matériel informatique, PowerPoint, Excel qui plante, enfin, c'est tous les jours. Je râle, alors ça c'est un peu moins quotidien et un peu plus périodique, sur le niveau de salaire, la culture d'entreprise, la politique d'entreprise, la charge de travail. Donc tous ces sujets qui sont plutôt liés voilà, à mes responsabilités et à mon travail. Et alors après, je râle aussi beaucoup sur les clients. Je suis commercial dans l'informatique, dans une entreprise qui fabrique des logiciels. Et donc, je suis en relation client toute la journée. Donc, je râle aussi beaucoup sur les clients, la non-réponse, le ghosting, le fait qu'un client ne veuille pas signer un deal. Alors, j'ai mes acolytes, c'est-à-dire qu'on n'est pas en flex office dans nos bureaux, contrairement à beaucoup d'entreprises. Donc, j'ai toujours les mêmes personnes autour de moi. Et puis, au-delà des personnes qui sont physiquement autour de moi, bah, j'ai mes work couple, quoi. Donc, mes copains du travail avec qui on discute beaucoup, que ce soit en interne de mon équipe ou en dehors, sur des sujets qui peuvent concerner tout le monde. Là, je râle auprès de mes collègues et de mes copains du travail.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
On peut parler de plaintes qui sont reliées aussi à une sorte de culture collective, à un lien social par un discours de plainte, donc un discours négatif. On va se plaindre comme on pourrait parler de la pluie et du beau temps. La plainte, les paroles de plainte sont à ce moment-là une sorte de liant, quelque chose qui réchauffe les relations, on pourrait dire. Voilà une des figures possibles des paroles de plainte au sein des entreprises.
Olivia Folli est docteur en sociologie et maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication. En 2022, elle publie aux éditions des Archives contemporaines un ouvrage de recherche sur les paroles de plainte au travail, avec pour sous-titre « Des mots indicibles aux conversations du quotidien ». La plainte, elle la réhabilite, et elle plaide pour une meilleure écoute et contextualisation de celle-ci, afin d'optimiser le fonctionnement des organisations et augmenter le bien-être au travail. Des vertus que Julia expérimente au quotidien.
À titre individuel, oui, ça a beaucoup de vertus positives parce que si je râlais pas, si je sortais pas tout ce qui bouillonne en moi au quotidien, je m'en sortirais pas. Enfin, je pourrais pas aller travailler le matin. J'exagère un petit peu volontairement, mais comme parler à ses copines de ses problèmes avec ses enfants ou de couple ou autre, oui, ça aide parce que on prend les conseils, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, etc. Bon, bah, c'est exactement la même chose dans le monde du travail. Moi, j'ai besoin de me rendre compte que je suis pas folle et de partager avec les autres et de voir que les autres pensent aussi un petit peu la même chose que moi.
Pour Olivia Folli, une nouvelle culture du travail invitant à être super heureux aurait tendance à gommer ces aspects positifs des râleries.
Derrière ces recommandations contre les râleurs, les géniards, etc., on a aussi tout ce qui émane d'un courant pour voir plutôt le versant positif des choses en entreprise, qui fait partie des idées dominantes, la culture du bonheur en quelque sorte, hein, le bonheur comme dogme. Donc finalement, les râleurs n'ont pas de bonne presse parce qu'on se doit d'afficher quelque chose de très positif. Il y a eu des créations de postes dans le secteur tertiaire de Chief Happiness Officer, donc des personnes chargées d'animer le bien-être et le bonheur au travail. Donc, vous voyez à quel point l'élaboration autour de cette injonction au bonheur a pu avancer jusqu'à créer des emplois dédiés à cela. Les organisations fonctionnent de manière très planifiée. Voilà, on est dans la prescription, dans la prévision, on met en place des process, on met en place des projets de sorte à ce que tout se passe le mieux possible comme prévu avec des moyens alloués. Et puis, bah, du coup, dans le réel du fonctionnement, qu'est-ce qu'on découvre au niveau des équipes qui réalisent l'activité? C'est que le réel résiste et que le travail est vivant. Le travail est vivant, c'est fondamental. On ne peut pas lutter contre ça. La matière nous résiste, les collègues nous résistent, la coordination ne se fait jamais de manière idéale, la communication n'est jamais idéale. Donc l'expérience même de travail, l'activité de production est teintée d'aléas, d'imprévus et d'obstacles aussi. Donc moi je dirais finalement, la plainte au travail, c'est incontournable. C'est le reflet de quelque chose qui est à poser comme constat, qui est à améliorer. Heureusement que ces paroles-là existent. Ça nous permet de nous ajuster, de chercher ensemble des solutions, etc. Le problème, c'est quand le fait de partager, d'énoncer les problèmes est disqualifié par la hiérarchie ou par des fonctions support, par des gestionnaires qui sont éloignés du réel de l'activité de production, du réel de l'expérience de travail. Et du coup, là, on pose l'étiquette justement de géniardise, de râlerie, qui est biaisée, qui est péjorative, alors même qu'on est face à un type de communication dans le travail qui est très prometteuse, qui est pleine de germes pour s'améliorer, pour trouver des pistes d'innovation, pour faire que ça se passe mieux dans l'activité de travail.
En fait, parfois, devenir son propre syndicat, c'est aussi un moyen de faire avancer les choses. Surtout dans des entreprises où l'organisation a complètement été chamboulée ces dernières décennies, entre avènement des startups, développement de nouveaux process digitalisés, flex office, home office et taux de syndicalisation en chute libre. Ce qui a protégé pendant des années les salariés et leur a permis de faire avancer les revendications, aujourd'hui, c'est délité dans de nouvelles organisations du travail. Et dans une société où tout est très individualisé, finalement, on en vient à se faire justice soi-même.
Je sais que oui, je suis un peu la CGT au travail. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, j'essaye de tâter le terrain, voir si les autres pensent la même chose que moi, et éventuellement de porter le message à plusieurs, d'aller voir notre boss en commun et de dire... on aimerait te voir pour évoquer ce sujet qui nous concerne tous. J'essaye de donner plus de poids au message et de le porter de façon plus collective. Je travaille donc dans une start-up dans laquelle, pendant longtemps, il y avait donc effectivement pas de syndicat, mais il y a toujours pas de syndicat, mais il n'y avait pas non plus d'entité RH à proprement parler, donc des gens à qui on peut remonter les problèmes. Donc on est bien obligé de se débrouiller un peu par soi-même dans ces environnements de travail.
D'ailleurs, Julia, c'est comme ça qu'elle a négocié sa dernière augmentation, en râlant suffisamment pour être entendue.
Je prends pas de moment vraiment dédié, institutionnalisé avec mon boss pour dire que quelque chose ne va pas. Je crée pas ce momentum. Je suis plutôt dans de la répétition quotidienne. Au fait, il faudrait qu'on parle de mon salaire, je te rappelle que je suis frustrée. Au fait, voilà, donc je le répète beaucoup quand je sais pas, mon boss me dit quelque chose, je dis oui, et oublie pas le salaire. Enfin, tu vois, un peu presque dans le comique de répétition, quoi. J'insiste beaucoup, je prends une punchline ou deux ou trois et je les répète autant que possible, que ce soit lors d'un déjeuner, lors d'un café, lors d'un one-on-one, lors d'une réunion avec l'équipe. Enfin voilà, je bourrine, comment dire. Puis mon boss me répète, oui, j'ai bien entendu, oui, j'ai bien entendu. Puis je répète, oui, t'as bien entendu, mais pour l'instant, il se passe rien. Mais toujours avec le sourire. Alors quelquefois, j'y mets un peu plus de sérieux pour dire... Peut-être que tu l'entends sous le ton de la rigolade, mais vraiment, je suis très frustrée. Please, entends-le. Mais je suis pas du genre à aller, mettre une heure de créneau dans l'agenda de mon boss en disant le thème du meeting, c'est ma frustration sur le salaire. Et puis d'expliquer par A plus B pourquoi est-ce que je pense que je mériterais une augmentation. Voilà. Ça, je sais pas trop le faire. Peut-être que j'ai un petit syndrome de l'imposteur aussi qui fait que j'ai du mal à vraiment poser le point sérieusement de pourquoi je mérite une augmentation de salaire. Donc voilà, je suis plutôt à verbaliser une frustration qu'à expliquer pourquoi est-ce que je mérite le salaire. C'est pas la bonne façon de faire. Je pourrais peut-être vous dire à la fin de la semaine si ça a fonctionné. Mais...
Se plaindre, râler, c'est une manière de faire avancer les choses dans son organisation, mais aussi de prendre soin de sa propre souffrance et un moyen de demander de l'aide. C'est ce que croit le psychologue américain Guy Winch, dont l'ouvrage « L'art de se plaindre et de se faire entendre » a été traduit en français. Selon lui, ce n'est pas parce que vous ne vous plaignez pas tout fort qu'il n'y a pas d'insatisfaction. Quand elle est bien maîtrisée, la plainte a des vertus thérapeutiques, pour soi et pour son organisation. J'ai bouffé, ouais, j'ai bouffé développement personnel. Non, t'as enregistré. Ok, pardon. Je l'avais pas. Putain. Je suis Raphaël Elkrief et vous venez d'écouter Émotions au travail. J'ai tourné et écrit cet épisode. Le montage, la réalisation et le mix ont été faits par Louis Jobard. À très vite.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.